Donc, bonjour. Cette session traite du renouvellement des débats et des enquêtes récentes sur les classes sociales en France et en Angleterre. Donc, je vais vous proposer une rapide introduction qui est en fait le bilan de 10 ans de réseau, c'est le réseau numéro 5, du réseau classe sociale, fragmentation, inégalité. C'est bien comme ça ? Ouais. Donc, je vous propose un rapide bilan de la manière dont le renouvellement des classes a été traité dans les 120 ou 150 communications qui ont été présentées depuis 10 ans dans le cadre de ce réseau. Et puis ensuite, Yasmine vous présentera la genèse, les objectifs et le déroulement de cette session. Alors le renouvellement des classes sociales dans le RT5 a été, dans les communications, envisagé de deux manières. On a parlé d'une part de retour des classes sociales et on a parlé aussi d'évolution des recherches sur les classes sociales. Alors, quand on parle de retour des classes sociales, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment dans les articles sur les classes sociales. Depuis une dizaine d'années, depuis le début des années 2000, on parle du retour des classes sociales ou du retour des classes sociales. La séquence est toujours un petit peu la même. On explique que dans les années 60-70, les débats sur les classes sociales étaient centraux dans la sociologie, c'était centraux aussi dans les débats entre écoles. Il y aurait ensuite, à partir du début des années 80, un affaiblissement des classes sociales, une diminution de l'importance des classes sociales dans la sociologie, et puis, à partir du début des années 2000, un frémissement ou un retour progressif. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que ce retour ou l'absence qui précédait sont souvent peu discutés, ils sont souvent présentés comme des faits indiscutables, et ils sont plus analysés que discutés quant à leur réalité ou pas, quoi. Alors les analyses s'organisent autour de deux hypothèses dominantes. Il y aurait eu un affaiblissement qui correspond, première hypothèse, à un virage théorique, voire idéologique des sciences sociales, un affaiblissement des sociologies critiques de démasquage de toutes les dominations, comme Luc Boltanski l'a évoqué hier en parlant de la diminution de la sociologie de domination depuis le début des années 80. Donc ça, c'est la première hypothèse qui est souvent évoquée. La deuxième hypothèse, c'est une perte de pertinence provisoire, presque technique, de la notion de classe sociale et sa difficulté à rendre compte d'un certain nombre de transformations de la société, comme la tertiarisation de l'économie, la mise en forme de nouvelles formes de stratification, de genre, de génération, ethnique, l'atténuation éventuelle des frontières entre les groupes sociaux en termes de consommation ou de style de vie, ou l'individualisation des formes de régulation. Cette deuxième hypothèse prépare à un deuxième sens du renouvellement des classes sociales dans les communications. On parle aussi d'évolution de la recherche sur les classes sociales, et avec évidemment des accords et des désaccords. Évolution autour de quatre domaines. Premier critère de distinction sur l'importance des faits de classe. Deuxième critère de distinction, c'est comment on définit les classes. Troisième critère de distinction, comment ont évolué les rapports de classe. Et quatrième critère de distinction, qu'est-ce qu'il en est de l'évolution des méthodes d'analyse des classes. Voilà. Pour le premier élément, c'est sur l'importance des faits de classe. Alors l'importance des faits de classe est peu contestée dans les communications du réseau sur les classes. Il y a peut-être un biais, mais la réaffirmation de l'importance des classes est très présente. Sauf que le réseau s'appelle classe, fragmentation, inégalité. Donc ce qui est nommé ou désigné comme classe n'a pas toujours exactement le même sens. Ce qui est sûr, c'est que les analyses en termes d'exclusion et de moyennisation qui pouvaient dominer ou qui avaient pris une certaine importance au début des années 2000 ont petit à petit été marginalisés ou critiqués, et aujourd'hui on trouve plus des analyses en termes de classe populaire, voire de transformation du salariat. En ce qui concerne la classe ouvrière, les deux tendances qui sont les plus marquées dans les communications, c'est celle d'une extension de la classe ouvrière par prolétarisation, par précarisation, ou une tendance à la division par renouvellement des critères de différenciation sous l'impulsion des politiques publiques ou des politiques d'entreprise. La classe la moins étudiée dans le réseau a été la bourgeoisie. Les quelques communications qui la concernent discutent son homogénéité, ses critères de légitimation, mais confirment ses privilèges et insistent sur sa conscience de classe. Voilà pour ce qui concerne l'importance des faits de classe. Pour les critères de définition, il y a un relatif consensus. Il y a trois affirmations qui se dégagent des communications. D'une part, c'est l'importance prédominante du travail, de l'emploi et du salariat pour définir les classes. Deuxièmement, l'influence des autres styles et des autres sphères hors travail, mode de vie, style de vie, est importante. Et finalement, la question principale dans ce secteur, c'est plus celle de l'articulation des analyses en termes de travail et de style de vie. Sur le troisième point, sur les rapports de classe, les communications sont moins consensuelles. Certains insistent sur l'épuisement et les difficultés des mobilisations traditionnelles et sur l'affaiblissement de la conscience de classe, alors que d'autres insistent sur le renouvellement des formes de mobilisation, sur un rapport mobilisé à sa condition. Et enfin, pour le quatrième critère, sur les méthodes, on peut dire que ce qui progresse, c'est une conception des classes comme construction conflictuelle. Il y a une progression du courant des sciences sociales qui accorde une importance à l'historicisation et à la contextualisation, où les phénomènes sociaux sont saisis dans leur genèse et dans leur configuration spatiale. Alors pour conclure ce survol rapide sur la question du renouvellement, on peut quand même se poser des questions normatives sur le retour. Est-ce qu'il y a un vrai retour et est-ce qu'il y a eu une vraie absence, et de quelles analyses parle-t-on quand on dit qu'il y a retour ou absence? Est-ce qu'il y a une vraie évolution ou pas une vraie évolution? Parfois, cette évolution, elle est considérée comme nécessaire, donc ça pose des problèmes de la rupture, de la continuité, des enjeux, de la qualification ou de la disqualification de ce qui avait pu être produit dans les décennies précédentes. Et donc ce rapide survol invite à réfléchir à la fois à la qualification et à la disqualification du renouvellement, qui appelle quoi. Et ça invite aussi à réfléchir sur les conditions dans lesquelles la recherche sur les classes sociales se fait, puisqu'il ne faut pas séparer les contenus des conditions de sa production. Voilà, je vais laisser la parole à Yasmine.
Donc je vais vous présenter plus précisément la façon dont a été conçue cette semi-plénière. Donc elle est issue initialement des débats qui ont eu lieu lors du précédent congrès au sein du RT5, puis au sein de journées d'études qui ont été organisées par le RT5 au cours de l'année 2012. Donc plusieurs questionnements communs ont émergé lors de ces journées. On en a retenu plusieurs pour l'organisation de cette séance, qui nous semblait particulièrement importante dans le cadre d'un congrès consacré aux dominations. Donc, tout d'abord, on voulait montrer l'importance de réactualiser, comme l'a rappelé Jean-Luc Dey, de réactualiser la discussion sur ce fameux retour des classes sociales et les formes qu'il prend aujourd'hui, où ce qui domine maintenant, nous semble-t-il, c'est la question de l'articulation des rapports de domination, notamment de classe, de sexe et de race, mais qui n'est pas seulement une question théorique, c'est aussi une question d'enquête. Et ce qui a caractérisé les discussions dans le RT tout au long de l'année, lors du dernier congrès, c'est que les participants mènent les discussions théoriques à partir de leurs enquêtes, et que les discussions théoriques sont toujours très fortement liées aux questions de méthode, aux questions d'échelle d'analyse des classes sociales. Ça m'amène au deuxième point, qui est qu'on avait le souci d'essayer de montrer l'importance de développer une sociologie des classes sociales qui tienne ensemble l'étude de groupes spécifiques et l'étude de l'espace social dans son ensemble, qui suppose de réfléchir là encore à des dispositifs d'enquête, qu'ils soient ethnographiques ou statistiques ou historiques, qui est le souci de toujours replacer des groupes dans un espace et aussi d'appréhender l'espace de façon très concrète. Comme l'a évoqué Jean-Luc, ce qui nous est apparu très vite, c'est qu'au sein du réseau, les travaux portaient surtout sur les classes populaires et quelques-uns sur les classes moyennes, mais très peu sur les classes dominantes. C'est aussi un effet de construction des réseaux au sein de l'AFS, puisqu'il y a un réseau élite où vont se retrouver plutôt les gens qui travaillent sur les classes dominantes. Donc ce deuxième point sur espace social et groupe spécifique nous semble très important. Enfin, alors ça n'a rien d'original, mais ça nous est apparu aussi flagrant. Il nous est apparu important de revitaliser les travaux sur les catégories et les représentations sur le monde social et les classes sociales. C'est un objet classique de la sociologie, mais qui nous semble assez délaissé. Donc travailler sur les catégories, qu'elles soient politiques, statistiques ou même celles des sciences sociales, de façon un peu systématique. L'importance de situer les débats de la sociologie française dans un espace un peu plus large, au moins européen, voire au-delà. Pour l'instant, on a commencé à aborder notamment, on a eu plusieurs discussions sur la sociologie britannique, d'où l'invitation de Fiona Devine que je présenterai après, mais évidemment, ça devrait être élargi à des débats dans d'autres contextes académiques et nationaux. On a donc sollicité 3 autres RT pour organiser cette session. L'ERT 24, genre, classe, race, l'ERT 34, sociologie politique, et l'ERT 42, sociologie des élites. Et on va donc vous proposer 3 interventions. La première sera celle d'Armel Testenoir, donc ce que le genre fait à la classe et vice-versa. Ça sera suivi d'une intervention de Anne-Catherine Wagner, les classes dominantes et le champ du pouvoir. On prendra ensuite quelques questions sur ces 2 premières interventions. On aura malheureusement assez peu de temps, donc des questions en français. Puis ensuite, nous aurons une intervention de Fiona Devine. Donc Fiona Devine est directrice d'un centre de recherche situé à l'université de Manchester qui s'appelle le CRESC. Et elle participe de longue date à des travaux à des travaux marquants sur le renouvellement de la sociologie des classes sociales en Grande-Bretagne, sociologie qui a été d'abord une sociologie plutôt ethnographique, puis qui s'est transformée avec des caractéristiques plus, qui allait plus vers la sociologie quantitative, mais qui a toujours un souci de combiner les différentes échelles d'analyse. Et donc elle va nous proposer à la fois un aperçu sur l'évolution des débats sur la sociologie des classes sociales en Grande-Bretagne et une présentation de ses travaux et des travaux de son équipe à Manchester. Donc je voulais juste rappeler qu'au départ, on avait prévu aussi d'inclure dans ce débat une partie sur la question de l'enseignement de la sociologie des classes sociales, en lien aussi avec l'APSES, l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales, mais c'était quand on pensait que la session durerait beaucoup plus longtemps. Et donc on a renoncé à cet aspect-là, mais on espère bien pouvoir tenir une journée d'études sur cette question prochainement. Donc je passe la parole à Armel Testenoir, puis on enchaînera avec Anne-Catherine Wagner.
Par opposition de la stratification pour laquelle un rapport de pouvoir, alors qu'il soit de classe, de genre ou de race, serait central, une pensée de la complexité affirme que les différents systèmes hiérarchiques interagissent et deviennent indissociables dans les pratiques et les expériences subjectives. Alors, dans les années 70, le black féminisme aux États-Unis, puis les post-colonial studies au Sud, s'inscriront dans cette perspective, avec notamment la notion d'intersectionnalité. Nous avons du mal à séparer les oppositions de race, de classe et de sexe, parce que dans nos vies, nous en faisons l'expérience simultanée, déclare en 1979 un groupe féministe noir de Boston, le Combahee River Collective. À la même époque, en France, simultanément à peu près, Daniel Kierkegaard pense l'articulation des rapports de sexe et de classe comme une co-construction qu'elle analyse à partir de la matérialité des pratiques sociales. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, ce qui me semble décisif est l'idée de dynamique réciproque. et le fait qu'elle se déploie dans les différents espaces sociaux, professionnels, familiales, relationnels, résidentiels. Il en résulte que les approches analytiques qui viseraient à isoler les effets propres du genre, de la classe ou de la race sont limitées, voire inopérantes, car ceux-ci n'agissent jamais isolément, mais toujours conjointement. Une conséquence méthodologique est l'atout des approches ethnographiques, des monographies ou encore des récits de vie qui appréhendent différentes dimensions de la vie sociale et leurs interconnexions dans un contexte donné. Alors, je me suis pour ma part intéressée aux parcours professionnels et familiaux et plus récemment de santé, principalement dans les classes populaires en France métropolitaine. Alors, dans le temps bref qui m'est imparti, je voudrais mettre en évidence deux points qui n'épuisent pas du tout, bien évidemment, le débat de l'impact du genre sur la classe et vice-versa. Alors, le premier que je voudrais souligner, c'est que le genre génère de la différenciation, de l'hétérogénéité au sein de la classe et réciproquement. Alors, cette hétérogénéité n'est pas à comprendre comme une segmentation d'un groupe au sein d'un groupe déjà là, mais comme des formes différentes que revêt le rapport de classe, non seulement selon le sexe, mais également produit également des strates, en particulier au sein d'une classe. Le deuxième effet, qui est un corollaire du premier, est qu'il contribue à configurer des parcours qui ont des formes différentes, au sens où les temporalités ne s'agencent pas de la même manière et produisent des inégalités qui sont souvent cumulatives. Alors, je m'appuierai sur un ou deux exemples, et en particulier, je m'appuierai sur l'exemple des naissances et leur impact sur les parcours professionnels, qui a l'avantage de mettre en évidence une forte visibilité des dimensions symboliques de naturalisation et dimensions matérielles, bien évidemment. Excusez-moi, je n'ai pas été assez vite sur le PowerPoint. Alors, dans le contexte français des années 70-80, où dominait la conception d'une classe ouvrière une et indivisible, Daniel Kerguet affirme qu'il y a une manière femme et une manière homme d'être ouvrier. Les femmes ne subissent pas une double exploitation en tant que femmes et en tant qu'ouvrières, elles sont exploitées différemment. Du fait de la division sexuée du travail, dans l'emploi, dans les univers de vie, les femmes et les hommes n'effectuent pas les mêmes tâches, n'occupent pas les mêmes emplois, n'ont pas les mêmes carrières et, je rajouterais, ne sont pas exposés aux mêmes risques, notamment en termes de santé. Et même si des choses ont évolué, c'est toujours vrai, même si les modalités de la division sexuée du travail évoluent, ainsi que, par exemple, ont montré hier et aujourd'hui les communications, notamment présentées dans les premières sessions du RT24. Les situations d'indifférenciation sont l'exception. De plus, les formes de la division sexuée du travail se modifient plus rapidement au niveau professionnel que domestique. Mais si le genre produit des manières différentes, femmes et hommes, d'être ouvriers, employés ou encore cadres, il produit également des strates internes à chaque classe sociale. C'est ce que je voudrais illustrer à partir d'une enquête sur les parcours professionnels et familiaux de jeunes femmes de classe populaire qui étaient toutes de même niveau de qualification, niveau CAP-BEP. Dans leur famille d'origine, les pères étaient des ouvriers blancs, majoritairement non qualifiés. Les mères également, mais elles ont interrompu leur activité à la naissance de leurs enfants. Celles qui ont repris une activité occupée, ensuite, des emplois peu qualifiés du tertiaire, agent de service, employé de maison, assistante maternelle. Dans l'ensemble de ces familles, il y avait une très grande homogénéité au niveau du mode de vie. Habitat, taille des fratries, difficultés scolaires des enfants, sociabilité, etc. Mais, si ce n'est qu'il y avait une différence, petite différence, si ce n'est le modèle éducatif. Dans certaines familles, prévalait un mode éducatif fortement sexué avec un double standard à l'adolescence, dont, par exemple, un contrôle strict des sorties et de la sexualité des filles, entre autres. Les attentes parentales à l'égard des garçons et des filles étaient fortement clivées, principalement familiale pour les filles. La féminité était étroitement associée à la maternité. À l'inverse, dans d'autres familles, les parents rompaient avec ce modèle éducatif. Alors, non pas nécessairement par souci d'égalité entre filles et garçons, mais plus comme un rempart contre les risques de précarisation. Ils visaient à doter chacun de leurs enfants de ressources similaires, le permis de conduire pour tous, une certaine mobilité à l'adolescence et insister sur l'enjeu de la formation professionnelle. Les attentes envers les garçons et les filles convergent dans ces familles. Alors, cette petite différence au niveau de la première génération peut entraîner des écarts significatifs au niveau de la deuxième génération, qui se manifeste notamment par le biais de la forme des parcours de transition des jeunes femmes au moment de la jeunesse. Je prendrai juste quelques petits exemples un peu extrêmes pour expliquer. Pour certaines d'entre elles, la première maternité n'intervient qu'après la stabilisation professionnelle, parfois longue, évidemment, des deux parents, et l'accès à un certain confort du logement. Le calendrier familial est réglé par le calendrier professionnel. Dans d'autres familles, Oui, parce que je vois pas le, donc j'ai un peu du mal à enchaîner le PowerPoint. Dans d'autres familles, le calendrier familial obéit à une géologie propre qui est déconnectée du rythme de l'insertion professionnelle, du moins pour les femmes. Ces femmes, en fait, reproduisent le modèle de leur propre mère, sauf qu'elles abordent donc simultanément deux transitions majeures, la constitution d'une famille et leur insertion professionnelle, sur un marché du travail qui est devenu hautement plus sélectif qu'à l'époque de leur propre mère. 10 ans après, à la petite ascension sociale des unes répond la précarisation des autres. Alors, les travaux d'Olivier Schwartz et de Jean-Pierre Terrail dans les années 90 avaient déjà mis en évidence le rôle du contrôle de la fécondité dans les dynamiques de mobilité sociale de la classe ouvrière. Dans le contexte actuel, je voudrais insister sur l'importance du calendrier. Le calendrier devient décisif, notamment l'ajustement de son calendrier ou non aux temporalités de l'insertion des professionnels. Les rapports de genre au sein de la famille d'origine, puis ultérieurement au sein du couple, ont un impact sur les parcours de transition féminins, notamment avec des effets cumulatifs à terme. Alors certes, ce processus n'est pas univoque, il existe des ruptures, des conquêtes d'autonomie féminine, bien sûr, mais elles ont souvent un coût spécifique dans les classes populaires, qui est la prise de distance avec la famille, qui est un lieu central de sociabilité et de solidarité. Je pense en particulier à la proximité et d'entraide qui constituent les familles, notamment pour l'accès à l'emploi. En sens inverse, les effets, je pense que je ne vais pas avoir le temps d'analyser, je suis désolée, d'avoir analysé les effets du genre sur la classe, et je vais passer, enfin, je vais aller assez vite. Donc, en sens inverse, les effets du genre, le genre a un effet également sur la classe. Par exemple, je m'appuyais sur l'enquête famille-employeur et sur plusieurs enquêtes que j'ai menées sur des auprès de couples, l'enquête famille-employeur que j'avais menée avec Daniel Trancard, l'exploitation de l'enquête de l'INED. Et on s'aperçoit que les naissances n'ont guère d'impact sur les trajectoires professionnelles masculines, qu'ils soient cadres, ouvriers ou employés, peu importe, si ce n'est qu'elles ont même tendance à augmenter leur activité et leur responsabilité. À l'inverse, et sans surprise, les naissances entraînent majoritairement des changements professionnels pour l'ensemble des femmes, et ceux-ci croissent avec le rang de l'enfant. Cependant, ce qui est important, c'est que ces changements ne sont pas les mêmes selon la classe sociale. Ils consistent pour les femmes cadres en changement d'emploi ou d'horaire, avec une externalisation du travail domestique et de care, et c'est la délégation à d'autres femmes fréquemment migrantes. Ainsi se développe dans les grandes métropoles un nouveau marché de la domesticité féminine. subventionnées notamment en France par les politiques publiques. Pour les femmes de classe populaire, employées ouvrières, les naissances, conjuguées à la précarité de l'emploi et l'instabilité des horaires, entraînent une intermittence de l'activité. Alors, celle-ci n'est pas nouvelle, mais elle avait quelque peu disparu, et on revoit des formes importantes d'inactivité pour un quart d'entre elles, notamment à la deuxième naissance, avec des effets de rémanence sur les trajectoires ultérieures. Alors, cette tendance à la dualisation entre, d'une part, femmes cadres et employées ouvrières n'est pas nouvelle, mais elle tend à s'accentuer fortement sous l'effet de la flexibilisation du marché du travail, des politiques publiques, bien sûr, mais aussi des logiques résidentielles. Alors, pour conclure, je voudrais revenir sur l'intérêt des analyses en termes de configuration historique. Il s'agit de saisir une dynamique réciproque, située socialement et historiquement, et qui se joue dans les différents espaces de vie. Et l'importance dans d'avoir une vue relativement globale, c'est justement que c'est souvent dans les interstices que se joue la compréhension des différences. Enfin, deuxième point, je voudrais signaler l'enjeu de la dimension temporelle. Ça permet de prendre en compte le caractère potentiellement cumulatif des inégalités sur une même génération, mais aussi d'une génération à l'autre.
Bon, donc je vais parler de la sociologie des classes dominantes en rapport avec le champ du pouvoir, c'est-à-dire quelles sont les questions, quelles sont les questions qui se posent aux chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les classes dominantes, comment est-ce qu'aujourd'hui on retravaille des questions classiques sur cette classe sociale. Donc, comme le temps est limité, je vais me limiter à deux thèmes, deux questions qui sont importantes. Hein. La première, c'est celle de l'unicité, ou de la pluralité. Est-ce qu'on peut parler d'une classe sociale unifiée, organisée, ou est-ce qu'il faut plutôt parler de fractions d'élite aux intérêts qui peuvent être opposés? Et notamment, une question qui est récurrente, surtout en France, c'est comment analyser les liens entre les dominants dans le champ politique et dans le champ économique. Et deuxième question, c'est celle du renouvellement des classes dominantes avec les transformations qui sont intervenues, notamment dans l'ordre économique, dans les lieux du pouvoir économique, avec la montée de la finance et la mondialisation. Est-ce que la bourgeoisie traditionnelle qui était caractérisée par ses liens au plus haut niveau avec l'État national n'est pas supplantée par l'émergence de nouvelles élites qui seraient plus internationalisées et mieux ajustées au trait actuel du capitalisme. Alors, à ces deux questions de fond, s'en ajoute une autre qui est plus pratique en apparence mais qui engage aussi des choix importants. C'est comment aujourd'hui étudier les classes dominantes, par quel angle, en utilisant quelle méthode. Donc, je vais commencer par là. Avant de parler donc des principes de cohésion des classes dominantes et ensuite des transformations. Alors, quelles sont d'abord les caractéristiques des recherches sociologiques sur les classes dominantes en France? Elles sont relativement tardives, puisque la sociologie française n'a que tardivement considéré la bourgeoisie comme un objet d'investigation légitime et ordinaire. Bon, il y a sans doute à cela des raisons variées sur lesquelles je ne vais pas toutes revenir, notamment le fait qu'il n'y ait pas de demande sociale vraiment d'enquêter sur cette classe. Il y a un malaise du chercheur dans l'interaction avec les dominants. Il s'agit aussi d'une population sur laquelle, paradoxalement, on a à la fois beaucoup de données et peu de données. Bon, beaucoup parce que les dominants sont des personnages publics, On trouve facilement leur biographie dans la presse. Ce sont des personnes qui écrivent, qui écrivent leurs mémoires, des articles, et sur lesquels on écrit. Et en outre, ils sont recensés très régulièrement. C'est un peu, en un sens, c'est le bonheur du sociologue, puisqu'il y a toute une série d'annuaires, de recueils, de bottins, etc., avec des informations qui sont extrêmement précieuses pour un sociologue, la famille, les décorations, les écoles fréquentées, les liens avec différentes sphères, etc. Et en même temps, il s'agit d'un milieu qui sait cultiver la discrétion, qui n'est pas toujours facile d'accès, notamment pour les enquêtes de type ethnographique, et surtout qui contrôle les informations données sur ses membres, avec des moyens importants, notamment juridiques, de contrôler justement l'information qu'on peut diffuser sur ce milieu. Donc c'est une population qui propose un discours déjà élaboré sur elle-même et qui donc tient à contrôler ce discours, ce qui fait que le sociologue peut avoir du mal à se démarquer de catégories qui sont élaborées, manipulées par les enquêtés. Bon, cela dit, les enquêtes se sont tout de même développées à partir des années 80. Une des raisons qui est sans doute importante, c'est les perspectives ouvertes par les travaux de Pierre Bourdieu, qui rapporte les mécanismes de domination non seulement à la possession des moyens de production, donc à l'exploitation économique, mais aussi à la capacité à les légitimer et donc à détenir des biens légitimes et légitimateurs. C'est une perspective qui sort finalement l'étude de la bourgeoisie de l'aporie bourgeois égale capitaliste et qui permet donc d'étudier notamment la culture bourgeoise. Et c'est la culture bourgeoise comme culture spécifique qui devient à cette époque un terrain d'investigation. Il y a d'autres raisons, mais je vais aller un peu plus vite. Aujourd'hui, donc, c'est une classe qui est bien connue, qui est mieux connue en tout cas, même si peut-être qu'il y a moins d'enquêtes, il y a sans doute moins d'enquêtes que sur d'autres milieux sociaux. Il y a néanmoins une particularité qui me semble dans les recherches sur la bourgeoisie qui sont liées à la méthode d'enquête. Il me semble que pour les autres classes sociales, les classes moyennes, les classes populaires, la question de savoir s'il faut choisir une enquête ethnographique ou quantitative se pose pas vraiment. Les chercheurs combinent le plus souvent différentes approches et données en fonction de leurs questions. Dans le cas de la bourgeoisie, il reste quand même un clivage assez fort entre des chercheurs qui travaillent essentiellement de façon ethnographique. Je pense bien sûr essentiellement à Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui ont accumulé une énorme connaissance, une connaissance très fine, de l'intérieur des classes dominantes en France, par un travail donc par immersion. Observations, entretiens, etc. Et depuis quelques années, se développent beaucoup des travaux donc plus statistiques, prosopographiques, qui utilisent essentiellement et souvent exclusivement des données publiques de seconde main sur le pouvoir, donc des biographies de PDG, des membres de conseils d'administration, des membres de clubs, etc., etc., et qui ne font pas forcément d'ethnographie directe, ce qui permet par contre d'étudier la structuration, plus la structuration du champ, les réseaux nationaux ou internationaux, etc. Donc ça s'explique par le coût d'entrée, le coût d'une enquête ethnographique dans ces milieux, et par le fait, l'autre justification, c'est qu'on a déjà effectivement beaucoup de données disponibles sur ces populations. La troisième raison, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de débats internationaux sur l'existence ou non d'une bourgeoisie, d'une classe dominante transnationale, et ce sont des débats qui mobilisent principalement des données quantitatives sur le recrutement des dirigeants. Alors, je vais essayer de tenir mon temps quand même. Je vais dire maintenant quelques points quand même sur les résultats. Ce sont des travaux d'abord qui éclairent les conditions sociales de la domination économique, on peut dire ça comme ça. Finalement, c'est un peu la classe qui éclaire le plus nettement ce que c'est qu'une classe sociale, la bourgeoisie. C'est-à-dire de montrer ce que montrent toutes les enquêtes, aussi bien donc ethnographiques que quantitatives, c'est que la domination économique est indissociable de la possession d'autres formes de ressources, culturelles, sociales, symboliques, qui viennent à la fois la légitimer et la conforter. Donc le style de vie, l'ancienneté dans la classe, les diplômes, les liens avec l'État, etc. De ce fait, la dimension collective du fonctionnement du groupe, ça c'est un des grands résultats des travaux de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot, c'est le collectivisme de cette classe. Dans la grande bourgeoisie, finalement, l'individu est noyé dans un réseau de relations familiales et sociales. C'est une classe qui se caractérise par une sociabilité intense, la recherche de l'entre-soi, etc. Qui brasse du coup à la fois des hommes politiques, des chefs d'entreprise, des financiers, des personnalités des médias, de la culture, des lettres et de la culture, etc., etc., qui sont unis par des liens familiaux, par le passage par les mêmes écoles, l'appartenance au même club, etc., etc. Et c'est un collectivisme qui est essentiel au maintien des positions, notamment économiques. Hein. On ne reste pas riche seul longtemps, en fait. Hein. C'est un peu la conclusion des travaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, la grande bourgeoisie, et peut-être aujourd'hui la dernière classe qui réalise pleinement les critères de la classe sociale au sens marxiste, hein, une classe en soi du fait de sa position dans les rapports de production, et une classe pour soi, consciente de ses intérêts et organisée collectivement pour les défendre. Hein. Donc du point de vue effectivement de c'est une classe qui éclaire finalement aussi le fonctionnement du capital économique, du capitalisme. Hein, on voit bien que le capital, c'est pas seulement de l'argent, c'est avant tout un rapport social de domination. Alors que peut-on dire sur le renouvellement de cette classe, hein? Qu'est-ce que nous apprennent notamment les travaux les plus récents sur le recrutement du patronat ou des dominants? Alors là, c'est un peu une autre approche, puisqu'on parle plutôt des fonctions occupées, hein, des positions et pas de la classe sociale, mais avec des résultats qui complètent les précédents, puisque finalement les enquêtes les plus récentes qui ont été menées sur les transformations des modes de recrutement des dirigeants des grandes entreprises montrent que les structures du pouvoir, en tout cas économique, ne sont pas aussi ébranlés qu'on le dit quelquefois par la mondialisation financière, hein, puisque les dominants en France ne sont pas des représentants de la grande finance internationalisée, etc. Ce sont toujours des descendants des vieilles familles bourgeoises passées par les mêmes grandes écoles d'élite françaises. Donc c'est ce que montrent, hein, notamment François-Xavier Dudouy, Éric Grémond ou Hervé Joly. Il y a pas mal de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Je pense aussi à Catherine Cornet et Jean Finez, hein, qui travaillent en termes d'analyse de réseau, hein, le recrutement des dirigeants reste assez constant, avec un lien étroit entre les hauts fonctionnaires et les patrons du privé. Les patrons, finalement, dans toutes ces enquêtes, qui ont les positions les plus centrales, hein, les dominants des dominants, notamment ceux qui appartiennent à plusieurs, au plus de conseils d'administration, donc c'est le critère de la co-appartenance dans les conseils d'administration, ils sont plus souvent issus de la grande bourgeoisie, ils sont très souvent héritiers de leur groupe, ils ont des notices anciennes dans le Wuzhou, et un tiers a commencé sa carrière dans l'administration. Donc on retrouve toujours l'interpénétration des familles des affaires et de la haute fonction publique. Cette apparente stabilité, pardon, du recrutement social et des liens entre fractions des classes dominantes va néanmoins de pair avec des transformations qui semblent relativement profondes, qu'on pourrait dire dans la division du travail de domination, hein, avec une distorsion au profit du pôle plutôt économique, hein, du capital économique. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les liens entre monde économique et la sphère de l'État existent toujours, mais plusieurs indices, on reviendra peut-être dans la discussion, mais j'ai pas le temps de m'étendre, le rapport entre les deux tend à s'inverser, c'est-à-dire ce n'est plus le service public qui légitime les dominants, comme dans la noblesse d'État, mais ce serait plutôt l'efficacité managériale qui légitime l'action publique. Donc il y a une recomposition des élites, hein, au profit du pôle économique, hein, que constate aussi François Denord et Paul Lagneux quand ils étudient les membres du Wuzhou, qui va avec des changements dans le mode de légitimation des dominants. Il y a une exaltation des vertus de la mondialisation, hein, donc c'est un terme qui remplace un peu celui de... qui joue un peu le même rôle structurel que celui de modernisation dans les années 60, et qui va avec une transformation peut-être du capital culturel qui légitime les dominants, un capital plus mondain, avec une place plus importante des écoles de commerce, de Sciences Po, et une plus forte composante en capital international, c'est-à-dire aussi des sources de prestige qui sont plus directement liées aux ressources économiques. Donc, pour conclure, cette fois-ci, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que la capacité à perdurer à travers les changements et consubstantiels des positions dominantes, hein, et en ce sens, il n'y a pas eu de retour de la bourgeoisie parce qu'elle n'a jamais disparu, mais il y a ces transformations que je viens d'évoquer, obligent tout de même les classes dominantes à tenir compte de l'existence d'autres sources de légitimité internationales dans lesquelles fonctionnent d'autres types de capitaux et se transforment probablement les rapports internes aux classes dominantes. Je remercie.
So as you can see, I'm going to have some reflections on class, thinking about the different dimensions of class and how we study it. First of all, I want to focus on some of my early work, which was a reflection of British sociology from the post-war period, or for much of the 20th century, was preoccupied with debates about the working class. That is what class, the study of class was in Britain for much of the early 20th century and indeed into the 1970s. And the dominant question within class in British sociology was very much a Marxian question, Marx's question about whether the working class was a force for change, to some extent a revolutionary force for change, or whether it was a more consensual class, more conservative in its social and political attitudes. And this was the dominant question that prevailed, as I say, for much of the 20th century in British class analysis. In the second half of the 20th century, so particularly in the post-war period from 1945, say, through to the oil crisis and the end of the long boom in 1973, the major preoccupation was with affluence, with post-war affluence, and its implications for working-class consciousness. For example, one of the most famous studies in British sociology, the affluent worker studies, was very much interested to see how the working class had changed in this different economic, social and political climate that prevailed at that time. And they argued in that classic study about convergence between the middle and the working classes, and that there was a disappearance of those differences between those two classes. So I conducted research. Some of my early work was also looking at issues around class and the working class and the fate of that in the late 20th century. As I've mentioned, the post-war period of prosperity in Britain and many Western industrial countries came to an end with the oil crisis in 1973, which then led to periods of recession, lack of growth, and a different economic climate, which led to the re-emergence of questions about whether members of the working class were a force for change that would challenge the nature of capitalist society, and so on. And I conducted qualitative work, for example, where the original piece of research was conducted by the affluent workers study, went back to Luton, a small, medium-sized town in the south of England, but unusually a manufacturing town with an American stroke British car manufacturer. And again, I did interviews with working class families, talking to them, in a tradition which was very like the early community studies, ethnographic research on class in the UK. And overall, I argued and talked about how in focusing on the social dimensions of class, or thinking about class in terms of community, that there were aspects of working class community that still were strong in the 80s and beyond, that there were strong social networks between extended family and kin in the community, local community, locality, and also with neighbors and friends, which was different from, say, a middle class sociality. I also argued about how there was a strong class identity, there was an exhibited a class identity, but it was not necessarily a strong class identity when people talked about it in the abstract. And again, people tend to downplay the differences between the middle class and the working class and to emphasize similarity rather than difference between them. That said, when I talk to people about their political allegiances, here class identity can be more strongly vocalized and was often the basis for an allegiance to the Labour Party as representing the political party representing the interests of the working class in the UK. Now, as I was completing this research and in the 80s, it was probably a major sea change going on in British sociology where we moved away from ethnographic research on class of a tradition in community studies to a research that became much more nationally representative sample survey work based on, of course, the analysis of quantitative data. Again, this was captured by research by the Oxford Mobility Group, looking at social mobility and patterns and trends in social mobility by John Goldthorpe, and then also work on class and education by A.H. Halsey and his colleagues. And this new approach that prevailed from the 1980s onwards very much identified a pre-existing class structure or identified theoretically a set of classes, and then it was a case of fitting people into those classes on the basis of the collection of information on occupation and employment status, whether people were self-employed or workers and so on. And as part of that research, the group based at Oxford found there was considerable growth of the middle class and increased social mobility, but also ongoing reproduction of advantage, and particularly the role of education playing a major role in the reproduction of advantage and disadvantage. So we saw a whole new opening up of new areas of research in class analysis in the UK, looking at the middle classes on social mobility. And there was much consensus around some of those substantive findings, but there was considerable kind of conflict and debate about the methodology for operationalizing class in empirical research. So, for example, although the work on social mobility was much admired, there was also a critique of what is called the employment aggregate approach, where class is studied almost only in terms of people's occupation and their employment status. And this became an increasing critique in the 1990s and beyond in UK, particularly from feminists such as Rosemary Crompton, who were very concerned about how class analysis tended to exclude women. All the research on social mobility excluded women if they were not working. It was assumed that the husband was the male breadwinner within a household and so on. And there were many problems raised with this employment aggregate approach. Also, a very influential figure, a colleague of mine in the UK, Mike Savage and his colleagues, wrote an important book on the middle classes and middle class reproduction called Property, Bureaucracy and Culture. And here we saw the first attempts at empirical investigation of cultural capital in the UK, of course, drawing on the work of Pierre Bourdieu. And myself and Mike and Rosemary Crompton and also John Scott, who's famous for his work on elites in the UK, I guess the four of us were involved in a seminar series, and we produced two edited collections where we were trying to maintain an interest in class, not just in terms of an economic category that, of course, we have to use often in national research, but also to retain an interest in class as a social category, as a cultural category, and thinking about all of those different dimensions of class. Also, increasingly, the people, colleagues associated with Goldthorpe and also other people based at Oxford who were using the employment aggregate approach were increasingly use what we call rational action theory. And again, this has been the source of much contention in the UK. It's focusing on class processes and explaining class differentials in terms of an individual theory of behavior based on rational action theory. But the problem with that theory is, again, it becomes increasingly economistic, with a focus on people making rational decisions about the costs and benefits of actions in terms of educational choices and so on. And there was a loss of understanding of individual action in terms of cultural practices and, say, for example, the impact of social networks on aspirations and ways that we think about the world. So increasingly, I also became interested in issues to do with social mobility and the reproduction of advantage and disadvantage. But I was also interested in returning to some of Goldthorpe's original ideas about class being about the mobilization of opportunities and constraints, and thinking about classes as packages of economic and cultural and social resources. And this is how Goldthorpe talked about class. And of course, here you can see the immediate parallel with Bourdieu's ideas around class as forms of capitals, economic, cultural, and social capitals. And increasingly in the UK, we have tended to use these terms of resources and capitals interchangeably, but notice how we are focusing on very similar things. So I started to explore some of these issues in, as I say, in relation to the middle class, thinking about the mobilization of capitals or resources in the reproduction of advantage, and was able to do comparative research in Manchester in the UK and then in Boston in the US, talking to families about how parents mobilize different types of capitals to help their children through the education system and then into the labor market, so that they critically, as middle-class parents, circumvent downward mobility. And this is the way in which class inequalities are often reproduced across generations and across time, and also how the family is critical in that role in the reproduction of advantage and disadvantage, despite government attempts to create more equal opportunities through education systems. So I emphasized how these processes occur, whereby middle-class families, particularly focusing on upper-middle-class families, say in medicine, doctors and their families, have considerable economic resources to draw on, much cultural capital, and also they have the social networks, often in the medical world, of other higher level professionals to mobilize to the advantage of their children in the use of internships and so on. So I argue that there are sections of the middle class that I find class reproduction fairly easy and straightforward, but there is a lower middle class in Britain, often public sector workers, teachers, social workers, and so on, many of whom are also mobile from working class positions, who do not have the same level of resources. And so therefore, class reproduction of ensuring that their children get into middle class jobs is not as straightforward or as easy as it is for other groups. And this is why, for example, in Britain, we have considerable public anxiety about which school children should go to, which are the best schools to choose at 11 of 15, which are the best university to attend to. So much anxiety and fear of falling out of middle class positions, because the processes are not necessarily straightforward. So I've continued to retain an interest in thinking about class, not just in economic terms, but also in cultural and social dimensions. And again, this has been alongside my colleague Mike and other colleagues at Manchester, and also at the Open University, who were responsible for setting up and getting major funding for the Centre for Research into Sociocultural Change, which is CRESC. We've worked with a number of themes on this around class and culture, and particularly around cultural participation and the class dimension of it. And so they were engaged in major research on class, culture, and distinction, looking at cultural tastes and practices in Britain in a way an empirical investigation of Bourdieu, and looking at how some of those cultural practices are shaped by class and other inequalities such as race, gender, and also importantly age. and colleagues that I have in Manchester continue in this tradition. Andy Miles is continuing to work on looking at cultural values and everyday participation. And then I also have another colleague, Wendy Bottero, again drawing on the work of Bourdieu, has been particularly interested in people's understanding of family histories and class and how their family class position has changed over time, with a strong emphasis here from both sociologists of a historical perspective of understanding class. Finally, I will finish by talking a little bit about a recent piece of research that has led myself and Mike Savage to get back together to do some empirical work, where we were, 2 years ago, we were approached by the BBC in the UK to do to work with the BBC's Lab UK, which is a platform that it has to do scientific research and draws on the expertise of academics to engage in understanding of knowledge and learning, and this is part of a BBC agenda. So with their help, we constructed a web questionnaire, again, using what we refer to as a resources or capitals approach to class, thinking about class in terms of economic resources, cultural capital, and social capital, again, drawing on the work of Bourdieu, but also on the American sociologist Nan Lin, and using his position generator question to get a sense of people's social networks. So we set up a questionnaire on the web, launched by the BBC, and asked people about their different economic, cultural, and social resources. We didn't have any predefined categories in our research, so if you like, rather than having a top-down approach of having predefined classes and fitting people into those classes, we adopted a bottom-up approach to see what sort of bundles of capitals that people would have using latent class analysis. And then we created or identified classes from this research. So when we did the research 2 years ago, people were very interested in the project, in part because it got a BBC launch and Mike was on television and we talked about Pierre Bourdieu on BBC television programs and this way of understanding class. And this meant that we had over 160,000 people conduct the web survey for us. Now, of course, this was fantastic in terms of the numbers, but it was heavily skewed towards, as you imagine, a BBC audience of mostly middle-class, very culturally engaged participants. So the BBC then allowed us to do a standard nationally representative face-to-face interview, and we have been working on merging the data from the two different types of a survey to be able to come up with some robust conclusions about what we have found. So what we did is identify seven classes. We are not saying that this is the end picture that we are going to produce, but what we try to suggest is there are two findings to this piece of research. One is that in Britain we clearly see a very distinct top and bottom in British society of an elite, and also what we refer to as a precariat of a group of people who have very limited economic resources and also often limited cultural capital and social resources. And we have been conscious of increasing polarization in British society with increasing income inequality, but also particularly that income inequality being fueled by growing income levels at the top amongst a very wealthy group of people, especially London and associated with London as a global financial sector. As you will see, we also identified different middle classes, an established middle class and technical middle class, and then we also identified different groups of working class people because the traditional working class, we would argue, is quite different, an often older working class previously found in manufacturing industry, while now we're seeing new forms of working class occupations in the service sector. But these many of these young people can have quite high levels of cultural capital and social networks, which are different from their parents and so on. So as I say, the two main headlines were around polarization and fragmentation. Then when we launched the results through the BBC, we found we had another 200,000 people were interested to do the survey. We created a little class calculator on the BBC website, and this led to 6.9 million people playing with the class calculator and guessing which class that they were in, and then sharing it on Facebook and Twitter, and this led to so many million of people thinking about which class that they were in Britain. So there was major public debate in Britain for about a week, which came to an end, ironically, with the death of Margaret Thatcher, and then the news moved on to something else. So it has become one of the tweeted biggest news stories in the social sciences in the UK, led to a lot of interest also abroad from the BBC websites. It also, of course, remains very controversial also within sociology, because we have to look at some of the methodological difficulties of doing this kind of web research, where you get fantastic numbers, and we're going to do some interesting research in terms of looking at occupations, also looking at education, the role of education and different institutions in the role of reproduction, and doing further work on class as a form a form of bundles of capital or resources which families mobilize in the reproduction of advantage and disadvantage. And just to end up quickly and just say, this is an example of the public debate that there was in Britain. We have a very famous left-wing group, the Socialist Workers' Party, who organized parties in London for particular groups. So this was a group of emergent service workers who were all going to a party in the summer in London. And then also I should talk about very quickly, I'm aware of time, the BBC also conducted many other experiments using academics from psychology, from music and so on. And what we have found is that people that did our survey also did many of the other surveys. So, for example, 29,000 of our sample also did a test on the BBC website asking how musical are you. So we have now much more detailed interest on people's musical tastes, and maybe explore some of the social dimensions and inequalities that there are in terms of music tastes, musical participation, and so on. So what we hope to be doing, as I say, is we have now big data to be able to think about further research on different occupational groups, different educational institutions and their role in reproduction of inequalities. What we also hope to do is to look at the spatial dimension of class, because when you have big numbers, we can disaggregate the data across the regions of the country and look at how, well, as we expect, that there will be major clusters of middle class and elite groupings in the south of and around London, while more disadvantaged groups to be found in smaller cities and towns, often based in the north. And we're currently engaged in thinking about sociology as a citizen science as well, thinking about how you engage the public with debates about class. And we also, if we get the opportunity, want to do some qualitative work, talking to people about some of the categories that we came up with and how they engage with those categories or reject them as they see fit. Okay, so thank you.